France Inter.
Bonjour mon cher Eric.
Bonjour ma chère Karine, bonjour à tous. Bon, reconstitution sous haute sécurité ce matin à Nanterre de la séquence qui a coûté la vie à Naël il y a 10 mois, ce garçon de 17 ans tué à bord d'une voiture par la balle d'un policier qui l'interpellait. Nous rejoindrons Charlotte Piret sur place. Le président chinois a attendu à 16h en France pour une visite de 2 jours qui commencera officiellement demain. La Chine de Xi Jinping est-elle une opportunité ou bien un risque pour les entreprises françaises et européenne? Nous poserons la question à notre invité Jean-François Di Meglio, le président de Asia Cendre. C'est le match du jour en rugby, la demi-finale de Coupe des Champions. Le Stade Toulousain accueillera cet après-midi le club anglais des Harlequins. Début de la rencontre à 16h. Nous rejoindrons à Toulouse notre envoyé spécial Fanny Lechevestrier. Enfin, le temps, le compte est bon pour l'émission, les chiffres et les lettres. France Télévisions ne la diffusera plus à la rentrée, remplacée le week-end par une émission que vous connaissez bien sur France Inter, le jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet. Et puis il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ça se passe au concours Lépine de la Foire de Paris avec, parmi les inventions, ce casque censé favoriser la concentration des élèves.
C'est une petite bulle qui permet aux élèves de pouvoir se concentrer. Ce petit casque, ça permet de réduire le champ visuel et le champ sonore. Et il envoie en même temps un message, c'est écrit dessus en fait, chut, les autres enfants doivent se taire.
Et après ce journal, l'Esprit Sport, Nathalie Yanetta, avec votre invité.
Aujourd'hui, Eric, on reçoit le seul gymnaste français qualifié pour les Jeux. C'est un garçon au parcours hors norme. Samir Haït Saïd vous attend après votre 13h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Nathalie. Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, des orages vont arriver sur la moitié sud.
Oui, ces orages arrivent par le sud-ouest et gagneront progressivement l'Auvergne et la Bourgogne. Ils seront parfois forts avec de la grêle et de bonnes quantités de pluie.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Le policier qui a ouvert le feu sur Naël il y a 10 mois était-il en légitime défense lors de l'interpellation qui a coûté la vie à cette adolescente de 17 ans dans une voiture à Nanterre? C'est pour trouver un début de réponse à cette question qu'une reconstitution est organisée depuis ce matin à Nanterre avec tous les protagonistes présents ce 27 juin 2023. Reconstitution nécessaire car il y a différentes versions des faits. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Pas mal de retard ce matin, mais ça y est, la reconstitution a pu commencer.
Oui, elle a débuté après plus de 2 heures de retard, alors qu'un très large périmètre de sécurité était mis en place dès ce matin, des fourgons de gendarmerie qui bloquent les rues, mais aussi la visibilité sur les lieux de cette reconstitution. Car s'il est habituel de cacher aux yeux du public ce qui est un acte d'enquête et donc couvert par le secret de l'instruction, ici, des moyens particuliers ont été déployés, puisqu'on sait que le policier auteur du tir remis en liberté après 5 mois de détention provisoire est par exemple cagoulé, et que les participants ont été invités par les juges d'instruction à porter des gilets pare-balles. Pour le reste, on est sur un schéma plus classique de ce type d'acte judiciaire qui réunit tous les protagonistes du dossier. Vous l'aviez dit, passager de la voiture conduite par Naël, témoin direct de la scène qui affirme pour certains avoir entendu les policiers menacer « je vais te mettre une balle dans la tête » ou encore « shoot-le ». Et puis les experts, notamment attendus par les juges d'instruction sur la trajectoire de la balle ou les positions respectives des policiers au moment du tir, des éléments cruciaux pour tenter de répondre à cette question principale du dossier. Au moment du tir, le policier de 38 ans était-il en état de légitime défense.
Charlotte, quel est le climat, quelle est l'ambiance autour de cette reconstitution qui va durer toute la journée, hein ?
Probablement, oui. Écoutez, l'ambiance est assez calme. Des médiateurs de la ville ont été mobilisés aux abords de ce périmètre de sécurité où se regroupent également des proches de Naël, présents dès 9h ce matin et qui ont l'intention de rester, nous ont-ils confié. Ils veillent en quelque sorte en mémoire du jeune homme de 17 ans et ont pu apercevoir notamment ce matin l'arrivée des enquêteurs, nous ont-ils dit, ou encore la Mercedes jaune conduite par Naël, ramenée pour l'occasion sur les lieux du drame, ainsi qu'une réplique de cette voiture non accidentée, celle-là, et donc en état de rouler pour cette reconstitution.
Et je précise que le policier qui a ouvert le feu sur Naël est mis en examen pour homicide volontaire, placé sous contrôle judiciaire. Il a été autorisé à reprendre son travail, mais à un poste purement administratif. C'était Charlotte Piret, en direct de Nanterre, avec Romain Luquiens. À Avignon, un policier a été blessé ce matin après un refus d'obtempérer, percuté par un scooter avec 2 personnes à bord. C'est en prenant la fuite que le conducteur a heurté l'un des agents. Conducteur interpellé, placé en garde à vue, le passager a pris la fuite et le policier transporté à l'hôpital. Ce sera à 16h cet après-midi, à l'aéroport d'Orly. l'arrivée du président chinois Xi Jinping et Madame, prémisse d'une visite d'État de 2 jours en France à partir de demain. Une relation franco-chinoise dite particulière depuis que le général de Gaulle a reconnu la République populaire de Chine, c'était en janvier 1964. Cette visite de Xi Jinping vient donc célébrer les 60 ans de relations diplomatiques. Voyage économique aussi, les échanges commerciaux sont asymétriques, largement en faveur de la Chine, on va en parler dans un instant avec notre invité. Cela dit, la France parvient parfois à tirer son épingle du jeu. C'est le cas avec la formation des pilotes de ligne. Le groupe français Silmaero vient d'ouvrir en Chine son premier centre de formation de pilotes chinois. C'est un reportage de notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot.
Premier client du groupe français, la compagnie aérienne de la province du Ronan, ses 230 pilotes ont commencé à se former sur le nouveau simulateur de vol installé par les Français. Et justement, l'un des jeunes pilotes sort tout juste de cette grande cabine qui fonctionne comme un cockpit d'avion.
On s'entraîne à réagir aux situations d'urgence. Par exemple, s'il y a un incendie dans l'avion ou bien une panne mécanique, on simule ces situations et on s'entraîne.
Silmaero a investi 65 millions d'euros pour construire ce centre de formation à Changsha. Et ce n'est pas un hasard si le choix s'est porté sur la Chine, explique le PDG Nicolas Moutet.
Dans les 20 prochaines années, il va falloir former 600 000 pilotes. Et sur ces 600 000 pilotes, un quart du marché va se situer en Chine, où l'aéronautique est en explosion complète.
Et il y a une vraie demande en Chine pour pouvoir désormais assurer la formation obligatoire des pilotes sur place. Wang Chengcheng est l'un des responsables de Silmaero en Chine.
Avant, il n'y avait pas assez de simulateur en Chine. Les pilotes étaient formés à l'étranger. Ce simulateur de proximité ici permet de réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes et c'est plus pratique pour les pilotes d'avoir un centre de formation tout près de leur compagnie.
Et le groupe français espère ouvrir 2 autres centres d'ici 2025 pour former les pilotes chinois. Changsha, Sébastien Berriot, France Inter.
Et j'accueille notre invité. Bonjour Jean-François Dimeglio.
Bonjour.
Président de Asia Centre, qui est un institut de recherche indépendant sur les relations internationales, stratégiques et économiques. La Chine, deuxième puissance économique au monde, elle ne connaît plus la même croissance depuis le Covid. Le taux de chômage chez les jeunes, il grimpe également. Est-ce que cette relative mauvaise passe chinoise est plutôt une opportunité ou bien un risque pour les entreprises françaises et européennes ?
Non, c'est une vraie opportunité de dire aux dirigeants chinois qu'ils ont besoin de nous, au moins autant que nous avons besoin de la Chine. La Chine a besoin d'exporter, c'est son principal moteur économique, parce que les autres sont réellement en panne, en particulier la consommation intérieure.
Vous dites que la Chine a besoin d'exporter, la Chine de Xi Jinping, mais les milieux d'affaires européens vantent la politique dite du de-risking. C'est une diminution des risques en allant par exemple investir dans d'autres pays d'Asie et non plus seulement en Chine. Quel est le succès de cette politique de diminution des risques vis-à-vis de Pékin ?
Eh bien, en réalité, la Chine pratique aussi ce de-risking parce que elle entend les messages européens qui se méfient désormais effectivement de la conquête par la Chine d'un certain nombre de marchés et puis des investissements chinois. Et la Chine exporte toujours, mais elle exporte aussi en direction d'autres marchés, en particulier l'Asie. Donc ce de-risking, il a commencé en Chine et naturellement l'Europe, et ça va être l'un des messages d'Ursula von der Leyen et d'Emmanuel Macron, va aussi passer ce message. Nous souhaitons être moins dépendants de la Chine.
La Commission européenne vient d'ailleurs de démasquer des subventions publiques chinoises massives, notamment au profit des voitures électriques chinoises ou bien des panneaux solaires chinois qui arrivent donc en Europe avec des prix très compétitifs. Ces subventions cachées, est-ce qu'elles peuvent véritablement mettre en péril les constructeurs français et européens ?
Ah, écoutez, malheureusement, c'est déjà le cas.
C'est le cas pour les panneaux voltaïques.
Absolument, la Chine a effectivement depuis maintenant plus de 10 ans tué l'industrie des panneaux photovoltaïques en Europe grâce à ses subventions. Et donc, on veut absolument se prémunir contre ça en matière de voitures électriques. Et donc, l'enquête a bien cet objectif en tête.
Et est-ce que le président Macron, qui a donc aussi invité Ursula von der Leyen à Paris, vous l'avez rappelé, est-ce que les deux vont s'en émouvoir pendant ces 2 jours auprès du président chinois ?
Ça va être une figure d'équilibrisme parce que, comme vous l'avez aussi mentionné, nos entreprises françaises ont besoin d'être en Chine. Elles ont besoin de défendre ce qui leur reste de position. Et l'exemple de Simaero est un excellent exemple. C'est-à-dire que partout où nous sommes excellents, nous avons encore des positions. Et lorsque nous sommes un peu moins qu'excellents, eh bien là, nous perdons des positions.
En 2022, Emmanuel Macron avait dénoncé l'espionnage industriel en regardant vers la Chine. Est-ce que cet espionnage commercial est devenu la norme à Pékin ?
L'espionnage industriel n'est pas le privilège de la Chine, naturellement. Mais on sait bien que l'un des moteurs de la croissance chinoise, ça a été effectivement le transfert de technologie. Le transfert de technologie n'inclut pas forcément l'espionnage industriel, mais il est avéré qu'un certain nombre de pratiques chinoises enfreignent les bonnes pratiques.
Et de cela aussi, ça sera difficile d'en parler avec Xi Jinping ?
Ce sera difficile parce que on risque le dialogue de sourds, on risque de ne pas atteindre les objectifs qui se sont fixés, mais le pire n'est pas forcément certain et les bonnes surprises peuvent arriver.
Merci beaucoup de cet éclairage, Jean-François Dimiglio, président donc de Asia Centre. Xi Jinping en France, donc demain ce seront des réunions de travail suivies d'un dîner d'État. Et puis mardi, les deux couples présidentiels vont se rendre dans les Hautes-Pyrénées, au col du Tourmalet, mythique ascension du Tour de France. C'est là qu'Emmanuel Macron aimerait bien partager un moment plus intime avec son homologue. Le gouvernement israélien a décidé de fermer la chaîne Qatari Al Jazeera diffusée en Israël. Israël qui accuse cette chaîne de menacer la sécurité du pays. Et concernant les discussions avec le Hamas, Benjamin Netanyahou vient d'affirmer ce matin que Israël ne peut pas accepter les demandes du Hamas d'arrêter la guerre à Gaza. À Dresde, en Allemagne, un adolescent de 17 ans s'est rendu ce matin aux autorités. Il a reconnu être l'un des auteurs de la violente agression vendredi contre un eurodéputé du SPD qui était en train de coller des affiches pour les prochaines élections européennes.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
En France, ça n'aura pas échappé aux spécialistes des congés opportunément déposés. Les jours fériés du mois de mai arrivent comme un alignement de planètes. Et les professionnels du tourisme attendent impatiemment le pont de l'Ascension, notamment du côté des plages, puisque c'est la destination préférée des Français pour 57% de ceux qui feront le pont. Philippe Lefebvre, vous êtes notre spécialiste tourisme. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un succès annoncé ?
S'il est encore trop tôt pour connaître le nombre exact de Français qui profiteront finalement des ponts du mois de mai, il y a des indicateurs qui laissent déjà penser que les vacanciers seront très nombreux. Ainsi, dans le Var, sur la très écologique île des Ambiers, il est désormais difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un hébergement pour la semaine qui vient. C'est ce que confirme Sarah Arfidorio, qui est la directrice du marketing de l'île.
On compte à peu près une progression de 30% du taux de remplissage par rapport à l'an dernier. Effectivement, le calendrier est plutôt favorable cette année.
Autre signe, la chaîne Logis Hôtel enregistre une progression de 40% de son chiffre d'affaires pour cette période, et majoritairement les Français vont prendre la direction des plages, y compris celle du Pas-de-Calais. Le département arrive en effet en deuxième place pour la réservation de gîtes, juste après le Vaucluse. Diana Hounslow est la directrice du comité départemental du tourisme, et elle s'attend à voir arriver sur la côte d'Opale des visiteurs de dernière minute.
En fait, les visiteurs arrivent vraiment très en dernière minute, souvent, de plus en plus souvent, c'est nationalement comme ça. Et donc, notre première clientèle est régionale, à 65%.
Enfin, les vacanciers de l'Ascension seront plus cigales que fourmis, puisque certains professionnels du tourisme évoquent une hausse des dépenses des vacanciers de l'ordre de 3% par rapport à 2023.
Philippe Lefebvre. C'est le rendez-vous rugby de la journée. Dans moins de 3 heures maintenant, la demi-finale de Coupe des Champions entre le Stade Toulousain et le club anglais des Harlequins. Deux équipes qui promettent du spectacle. Les Rouges et Noirs, largement favoris. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
En direct de Toulouse, match très attendu. Donc les Toulousains favoris, je le disais, surtout devant leur public du stadium.
Oui, parce que c'est une rareté cela. Cela fait 14 ans hors Covid que le Stade Toulousain n'a plus accueilli de demi-finale de Champions Cup à domicile. Les 33 000 billets du stadium se sont vendus en à peine 20 minutes. Et je peux vous dire que les maillots des supporters sont sortis depuis ce matin autour notamment du marché Victor Hugo, centre névralgique de la ville. On y croise aussi des fans anglais, hein, puisque pour eux aussi c'est l'événement. C'est la première fois que les Queens atteignent ce stade de la compétition. Un match pour lequel, vous l'avez dit, Toulouse 12 quintuples champions d'Europe, emmenés par ses maîtres à jouer, Antoine Dupont et Romain Tamac, qu'on ne présente plus, eh bien par grand favori cet après-midi, hein, tant le club semble dominer la compétition cette saison. Mais attention, les Lodoniens, au jeu très offensif, emmenés par un trépignant et trublion Marcus Smith, étaient annoncés perdants déjà en quart à Bordeaux, et ils ont gagné au terme d'un match assez fou en inscrivant 6 essais.
Toulouse contre les Queens, ce sera donc à partir de 16h aujourd'hui au Stadium de Toulouse. Fanny Lechevestrier en direct. C'était une décision difficile, mais nous avons fait le choix d'arrêter ce programme des chiffres et des lettres. C'est terminé. Annonce du directeur des antennes et des programmes de France Télévisions dans la tribune dimanche. Après 52 ans d'existence, l'émission ne sera plus diffusée la rentrée prochaine. Les audiences n'étaient plus au rendez-vous depuis qu'elle est passée en hebdomadaire en 2022, diffusée uniquement le dimanche sur France 3, avec un générique intitulé Western Patrol, musique originale composée par un certain Eddie Warner. Caroline Félix.
Le 4 janvier 1972, les Français découvrent un nouveau jeu sur Antenne 2. C'est Patrice Laffont qui présente.
Consonne. Voyelle.
Et le premier tirage, J-I-O-H-O-O-E, qui font un premier mot.
Quatre lettres.
Quatre lettres, Madame Cooks.
Pas mieux.
Pas mieux.
Joie.
Ce jeu, c'est aussi le compte est bon avec une bonne dose de calcul mental.
54 plus 3, 57. Multiplié par 10, 570. Plus 25, 595.
Voilà, 4 points. Ça vient être en pleine forme. Oui,
en 50 ans, le principe reste le même. Une épreuve de vocabulaire, une épreuve de calcul. Avec pendant longtemps deux piliers du jeu. Bertrand Renard pour les chiffres, Ariel Boulin-Pratt pour les lettres. En 2022, ils claquent la porte après une quarantaine d'années de CDD chacun. La même année, l'émission passe le week-end. L'audience n'est plus au rendez-vous. Des chiffres et des lettres sortent à remplacer le week-end par une autre émission culte, le jeu des 1000 euros, l'émission de France Inter qui a déjà une version télé.
Voilà, le jeu des 1000 euros, donc tout le week-end à la rentrée sur France Télévisions avec Nicolas Stoufflet. Notez qu'une émission d'adieu des chiffres et des lettres réunira Patrice Laffont et Laurent Romeshko qui ont présenté tous les deux ce programme. Enfin, le compte est bon pour ce joueur de loto dans la Vienne qui a remporté hier soir 13 millions d'euros. C'est le deuxième plus gros gain de l'histoire du jeu dans la Vienne. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Nous allons retourner à la Foire de Paris et son indissociable concours Lépine. Beaucoup de visiteurs ne viennent d'ailleurs que pour ce concours. Hier, nous avons roulé dans une voiture gonflable, nous avons testé des toilettes intelligentes. Et bien la suite maintenant de notre petit tour des inventions qui attirent le plus de curieux.
Un aspirateur qui avale les moustiques, un pot de fleurs évolutif qui grandit avec vos plantes. Tant pis s'il faut jouer des coudes pour accéder au stand, apparemment ça vaut le coup.
C'est des gens passionnés, aussi bien ceux qui exposent que ceux qui viennent voir.
Madame, qu'est-ce que vous faites au concours Lépine ?
On rigole, ça fait du bien, parce que c'est morose, l'ambiance en France.
Madame, qui arrive de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.
On vient d'acheter une mangeoire à poules.
Et qu'a-t-elle de spécial ?
En fait, on la met en hauteur, à 40 cm, et donc la poule, elle est obligée de...
Bon, allez, le mari.
Si vous mettez les grains au sol, c'est mangé par les rats et les poules en mettent partout. Donc avec cette mangeoire-là, les rats n'y ont plus accès et les poules montent sur leurs ergots pour aller picorer.
Fallait y penser.
Eh oui.
C'est une très bonne invention pour les gens de la campagne.
Ça y est, j'ai remarqué.
De la basse-cour au cours tout court, cette enseignante présente un casque équipé d'oreillettes concentration garantie.
C'est une petite bulle qui permet aux élèves de pouvoir se concentrer. Donc en fait, l'enfant va mettre ce petit casque sur la tête. Ça permet de réduire le champ visuel et le champ sonore. Et il envoie en même temps un message à son entourage. C'est écrit dessus, en fait, chute. Et donc, les autres enfants doivent se taire.
C'est ça, le concours Lépine. Du plus sérieux au plus curieux, du plus impressionnant au plus amusant. La bonne humeur est virale, on vient de l'entendre côté visiteur. Pas mal non plus côté inventeur.
Qu'est-ce qui vous fait marrer, vous ?
Les gens, ils nous regardent avec des regards bizarres. De quoi elle me parle, elle ? Donc forcément, ça fait rigoler.
Alors vous, vous avez inventé quoi ?
Le pouf, tu dors.
Rien compris. On recommence.
C'est un pouf Kinder Surprise. C'est un pouf que vous démontez, voilà, complètement. Tchoup, vous avez votre couette.
Ça me fait rire, on va pas s'en sortir.
J'ai rien fait, moi.
Ah là, ouais, bien sûr. Et du coup, vous avez la surprise à l'intérieur. Voilà, donc ça vous donne votre couette qui se vide intégralement.
qui se dégarnit et qui se lave en machine standard.
Qui se dégarnit, une couette qui se dégarnit.
En fait, on n'a pas compris le principe.
Moi, je suis novice, hein, je suis éboueur de base, donc
d'accord.
Rien à voir avec la couture, je patauge total. Donc, dans la housse, il y a des compartiments qui contiennent des coussins. Il suffit de les enlever pour que ça redevienne une simple housse.
Ok, donc là, j'ai compris.
Merci.
Donc, faut enlever tous les petits coussins.
Oui, il suffit de secouer la couette, ils sortent.
L'avantage ?
Besoin de rire. Le rire, c'est la vie, c'est comme le rêve. Si on rêve pas ou qu'on rêve pas, qu'est-ce qui nous reste ?
Voilà, ce concours Lépine, remise des prix le 10 mai. La Foire de Paris refermera ses portes ce soir. Le temps.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ambiance orageuse cet après-midi.
Oui, avec l'arrivée par le sud-ouest d'une dégradation qui apporte ces averses orageuses. Elles seront parfois intenses avec de la grêle, de bonnes quantités de pluie également. Des orages qui vont se déplacer vers l'Auvergne et puis la Bourgogne. En soirée, elles arriveront sur le nord-est et sur le relief des Alpes. On va rester au sec avec des éclaircies sur le quart sud-est et le flanc est. Mais la nuit prochaine et surtout demain, là aussi, la pluie sera au programme. Les orages également pour le sud-est. Pour la moitié nord, ce sera plus calme cet après-midi. Un ciel encore mitigé, beaucoup de nuages, quelques timides éclaircies et de bonnes averses encore des Pays de la Loire à la Normandie.
Et des températures plus douces.
Oui, on aura même des valeurs de saison puisque la moyenne ira de 15 à 24 degrés. 15 à Brest, 16 à Rennes, 18 à Lille, 19 à Paris et Limoges, 22 à Lyon et Bordeaux, 23 à Biarritz et 24 pour la maximale à Tarbes.
Céline Dacosta.